France Inter, un ami nommé Jacques Brel. Un feuilleton de la RTBF et des médias francophones publics. Aujourd'hui, la rupture et les départs.
Il faut savoir tous les jours qu'on est mortel. Et l'idée de la mort n'est pas une idée triste, c'est une idée d'une célébrité fantastique.
C'est quoi vivre ?
C'est être raide. C'est vraiment être raide, c'est être tendu. C'est avoir un truc de plus que tout ce qu'on nous a appris. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne seraient point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île au large de l'amour, posée sur l'autel de la mer, satin couché sur le velours. Une île chaude comme la tendresse, espérante comme un désert, qu'un nuage de pluie caresse. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne seraient point ces fous qui nous cachent les longues plages. Viens mon amour, fuyons l'orage, voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île, et qu'il nous reste à bâtir, mais qui donc pourrait retenir les rêves que l'on rêve à deux. Une île, voici qu'une île est en partance, et qui sommeillait en nos yeux depuis les portes de l'enfance. Oh, viens, viens mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance, et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île,
j'ai réussi à aller au bout de certains rêves, enfin. Oh, les rêves qu'on a quand on est sur un pont, qu'on est gamin, qu'on voit une gare de triage. Alors, on a l'impression de voir des hommes faire des choses, hein. Et les hommes ne font jamais rien. Mais quand on est petit, on nous apprend que les hommes font des choses, et on croit ça. Et alors, après, peut-être qu'il faut quand même faire certaines choses pour avoir l'impression trouble et un peu malsaine d'être un homme. Alors là, j'ai fait 2-3 petits trucs qui m'ont amusé. Fait... qui font que par moments, je m'endors un peu comme un machiniste de cette guerre de Trias que j'allais regarder quand j'étais petit. Mais c'est par sérieux.
On me demande pourquoi je n'ai pas pu rester comme les autres. Il faut pouvoir expliquer en 3 heures ou en 4 heures, et en étant sûr que l'autre ne va jamais rire, que le fait de regarder une fleur, de la renifler et qu'elle sente bon et qu'il y a un grand ciel bleu au-dessus ne me suffit absolument pas. Que comme ces fleurs existent et qu'elles sont toujours rares, on a envie d'en planter sur les terris où les charbonnages vomissent leurs petits cailloux.
On n'oublie rien, de rien on n'oublie, rien du tout on n'oublie, rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers cœur de gris, de pleur en pleur. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de femmes pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait 1000 chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
Bouger, partir, aller voir ailleurs, découvrir pour se retrouver. En route inlassablement pour le Far West, Brel déteste l'immobilisme. Vivre ses envies, elle est là, l'aventure, même si pour arriver, il faut d'abord quitter. Envie d'air et d'espace comblée dès 1964. Aux commandes de son avion, porté par ses ailes de géant, il traverse le ciel quelquefois si bas qu'un canal s'est pendu. Perfectionniste comme dans tout ce qu'il aborde, il aurait pu devenir pilote professionnel. En 74, Brel, déjà malade, accomplit un désir d'enfance, devenir Vasco de Gama. Larguer les amarres et prendre le large. Cette passion du bateau le conduit vers une nouvelle escale qui sera aussi la dernière. Une île, un exil, un rêve, un ultime rêve.
France Inter.
Nous avions prévu, vu qu'on voulait quand même beaucoup ensemble, c'était qu'il devienne instructeur de vol.
Jean Liardon, instructeur de Brel.
En fait, lui, il se voyait comme instructeur de vol à Genève. ce qui lui permettait d'une part de faire l'instruction, d'être en contact avec les gens du milieu aéronautique et en même temps d'avoir d'autres activités, donc ça lui faisait un tout. Et quand il est tombé malade, alors naturellement il a dit, pour moi l'aéronautique ça n'a plus d'avenir, un certain jour le médecin m'interdira de voler, donc je ne peux pas continuer dans cette voie, et c'est là qu'il a décidé de plutôt bifurquer sur le bateau. Et le départ sur le bateau, bon, c'était plutôt pour se prouver à lui qu'il savait faire un certain nombre de choses. C'était son but, c'était pour continuer à s'évader, continuer à voyager. Et je pense que son arrêt sur les îles, c'est le pur hasard. C'était pas du tout calculé. En soi, ils étaient partis pour faire le tour du monde. Donc, ils voulaient boucler la boucle. Ce qui ne s'est pas fait. Vu que je crois que là où il est parti, après, ça lui a plu, il est resté, il s'est installé. Ça correspondait peut-être aussi à son état physique de l'époque, où il sentait qu'il ne fallait plus trop en faire, et il s'est installé là-bas. Mais ce n'était pas quelque chose de voulu, ça sûrement pas. C'est-à-dire que pour lui, le Far West, c'est le rêve, c'est l'impossible rêve qui doit se réaliser, et au fait, il était toujours à la recherche de cela, de son Far West, dans tous les domaines. L'aviation... c'est bien typique, hein. Il a reçu ses licenciements de vol, il a dit je peux voler un jumbo jet, donc sa prochaine étape était déjà pour le gros avion. Et je pense, s'il le disait en rigolant dans les bistrots, il était relativement sérieux même en le disant, et il était tout à fait capable d'aller le faire, parce que s'il y avait eu le temps de le faire, il l'aurait sûrement fait, il aurait été sûrement volé sur un jumbo jet, ça j'en suis sûr, il aurait fait la chose. Son voilier était un voilier déjà important. Je pense que si la voile l'avait vraiment enthousiasmé, il aurait été plus loin. Bon, la voile, il a dû arrêter pour des raisons de santé, mais il trouvait que tout ce qui touchait la marine est un peu amateur en comparaison avec l'aviation. Donc, il n'a pas retrouvé le même enthousiasme dans la voile qu'il l'avait en aéronautique. L'aéronautique, c'est quelque chose de précis. Et beaucoup de fois, il me disait, tu vois, l'aéronautique, c'est comme un tour de champ. Il y a la même précision, il y a un timing, il faut arriver à temps, il faut atteindre un but, il faut arriver. Et on doit aboutir, et à la fin, il y a une piste qui est devant toi. Puis lui était toujours super étonné de voir une piste devant soi, après avoir volé dans les nuages pendant 2 heures, puis se retrouver, la piste est devant toi. Ouais, j'ai réussi mon coup, j'y suis. Et c'est ça qui l'enthousiasmait.
Jacques Brel sur France Inter.
C'était souvent une philosophie qui l'arrangeait bien. Donc, oui, l'absolu, je crois que chacun de nous, on adapte justement ce qui nous arrange. Et dans le cadre donc, du tempérament de Jacques, c'est clair que de rester quelque part trop longtemps n'était pas sa manière d'être. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il revenait toujours à ses points de départ. C'est-à-dire qu'au fait, il était très fidèle en beaucoup de choses. Il revenait beaucoup plus en arrière qu'on ne le pense.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent, Gauguin. Par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant, et la lune s'avance et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et la lisée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent. Et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
est arrivé au Marquis, non pas par hasard, parce qu'il avait dessiné son chemin sur un petit bout de papier à l'époque où il fumait.
Madly Bamy.
Il m'avait donc fait le trajet du tour du monde qu'il voulait faire. Et nous sommes arrivés aux Marquises et nous avons visité les Marquises et nous pensions continuer. Seulement là, la maladie était un petit peu forte et c'est moi qui lui ai dit, écoute, tu m'as promis de faire le tour du monde, je te rends ta parole, on pose le sac. C'est comme ça que nous sommes restés aux Marquises. Nous avons voulu aller ailleurs, mais il y avait trop de monde, c'était trop facile d'accès, et on s'est dit que là, on serait plus tranquille, c'était aux Marquises, parce que c'était difficile. Comme lui, il aimait les choses difficiles, et que moi, l'accompagnant, ça ne me dérangeait pas, puisque, après tout, on pouvait faire n'importe quoi, ça m'était égal, étant donné que j'étais avec la personne avec qui j'avais envie d'être, donc le souci de la difficulté ou autre m'importait peu. Donc je lui ai rendu sa parole de façon à ce qu'il arrête de vouloir tirer sur les bouts à tout prix parce qu'il m'avait promis de me faire le tour du monde en bateau.
Il était évident que Jacques Brel recherchait la tranquillité, l'isolement.
Le maire du village d'Atuona.
Et vu sa situation médicale, je pense qu'il essayait de fuir le stress, l'énervement des pays trop développés. Et il pensait donc, en partant dans une aventure, essayer de trouver peut-être un petit coin où il pourrait souffler un peu. Hein. Ça, c'est le premier objectif, l'objectif immédiat. Car lorsqu'il a eu son premier contact avec notre île, il venait de débarquer par un yacht qui s'appelait Lascoy. Hein, et tout seul avec Madly à bord, c'était certainement très prenant et très fatigant. Et donc, je pense que leur première escale ici, à Atuona, a été pour eux un peu l'occasion de se dire vivement un peu de repos. Et je crois que son premier contact l'avait déjà presque décidé à rester là, car c'était un contact physique, mais pour la première fois peut-être de sa vie, il était obligé de décliner son identité, car même s'il disait « je suis Jacques Brel », il était pour ainsi dire inconnu. Alors donc, c'est peut-être ce côté qui lui a plu au départ.
J'ai rencontré Brel.
Olivier Todd, écrivain, biographe de Brel.
Je l'ai suivi pendant une semaine, lorsque je travaillais au Nouvel Observateur, à l'époque où il avait dit « je vais partir ». Alors je suis rentré, puis j'ai dit à mon rédacteur en chef « il va partir ». Il m'a regardé, le rédacteur en chef, avec un certain scepticisme. J'ai dit « non, c'est une intuition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce bonhomme-là, il va quitter les planches ». Et en fait, c'est vrai que Brel a crié très très fort « je vais quitter la scène, je vais quitter la scène », pour être sûr de quitter la scène. Et je crois qu'il a fait un petit peu la même chose aux Marquises. Je m'explique. Il est arrivé là-bas, il n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter aux Marquises. Hein. Il était simplement épuisé. Il est arrivé avec son bateau, Lascoy, et il a évité Tahiti, il est allé à Ivaoa, et là il s'est, pour ainsi dire, moralement échoué. Il n'en pouvait plus, il était fatigué. Et puis il s'est drapé un peu dans une pause. Il a déclaré à des journalistes de passage « Je suis heureux, je reste aux Marquises ». De même qu'il avait dit « Je quitte la scène ». Et il n'a pas pu se renier. Mais je pense qu'en fait, sa vie aux Marquises a été plus compliquée qu'il ne l'a laissé entendre. Je ne suis pas personnellement convaincu qu'il y a trouvé une sérénité totale et le bonheur parfait dont il a fait un peu étalage ici et là. Il faut dire aussi que c'était un homme qui avait été opéré du cancer et qu'il n'y avait pas de rémission. Il a refusé de faire ses examens tous les 6 mois. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ait été totalement nirvanesque aux Marquises. Mais cela dit, je pense qu'il appartient à la catégorie des gens qui ne trouvent jamais le bonheur, la sérénité absolue. De même que je pense, et c'est une chose que je trouve assez attirante chez lui, c'est une sorte d'éternel adolescent, Brel. Et la comparaison ne s'impose pas d'emblée, Mais il me fait un peu penser à quelqu'un qui ne lui ressemblait pas du tout, c'est Sartre. Sartre a été un éternel adolescent, enfin, presque jusque dans sa cécité, presque jusqu'à sa mort, tardive. Mais Brel aussi. Mais ça me le rend plutôt attirant. C'est quelqu'un qui voulait toujours faire des choses nouvelles, car il a eu 4 vies. Hein. Il a été chanteur, et quel chanteur ? Enfin, un chanteur comme on n'en a jamais vu, c'est-à-dire un homme qui écrivait ses chansons, qui les interprétait, il n'interprétait jamais les chansons des autres, quelle humilité, quel orgueil. Il dictait sa musique, parce qu'il ne savait pas déchiffrer une partition, et il a eu la chance de rencontrer des gens comme Robert et Joannès qui l'ont senti et qui ont pu transcrire sa musique. Il a été cinéaste, pas seulement comme acteur, comme réalisateur. Il a essayé de faire de la tragédie musicale, parce que L'Homme de la Mancha, c'est une tragédie musicale, c'est pas une comédie musicale. Et puis il a été pilote. Il a appris à manier un bateau très lourd, parce que Lascoy, son bateau, était superbe, magnifique, mais demandait beaucoup plus qu'un homme et deux femmes pour traverser l'Atlantique. Et puis il a aussi appris à piloter un avion. Mais ça, je trouve ça assez fascinant, un homme qui va au bout de ses intentions et qui a beau être très menteur très souvent dans la vie avec d'autres, ne se ment pas à lui-même.
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands à cause des Anglais. Mourir baiseur intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse-fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racraper. Mourir de se découdre ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir.
Ton parti pris, c'est une politique, enfin, si vous voulez. Je ne veux pas attendre. Mais qu'est-ce qui peut bien vous arriver ? Rien. Parlons de rencontre, mais pas d'attendre. On n'attend pas une rencontre. On donne rendez-vous à quelqu'un. N'est-ce pas ? On n'attend pas quelque chose. Alors moi, ça me semble aberrant, ça. Attendre quoi ? On est là, on se dégrade doucement, puis on va mourir. Puis qu'est-ce que vous voulez attendre ? Pourquoi voulez-vous que quelqu'un brusquement se mette à s'intéresser à vous. S'il s'intéresse à vous, de toute façon, c'est mauvais surtout pour lui, parce que c'est qu'il se fait de vous une idée fausse. Donc on peut rencontrer des choses comme ça, d'une manière assez brève, assez brûlante aussi peut-être. Mais on n'a pas à attendre. On meurt d'attendre.
Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert. Mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir sous le manteau tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme. Ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument, mourir au bout d'une blonde,
monde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombe en tombe. Mourir insignifiant au fond d'une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane, ou terminer sa course la nuit de ses mille ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir la belle affaire, mais vieillir, oh.
Jacques ne voulait pas vieillir.
Pierre Brel.
Depuis qu'il était jeune. Et dans une de ses chansons, il le dit. Hein, mourir la belle affaire, mais vieillir, oh vieillir. Il avait peur de ça. Et on ne peut pas dire qu'il ait vécu avec une perspective de tâcher de vivre longtemps. Hein. Il s'est vraiment consumé. Hein.
Jacques Brel, sur France Inter.
Je deviens vieux, vous savez. Et on ne promène pas impunément un désespoir toute sa vie. Un désespoir, j'entre pas là, ce n'est pas triste, le désespoir, c'est le manque d'espoir. Moi, je n'attends rien, si ce n'est de moi, en me battant le derrière. Et je ne redoute plus que la souffrance physique. Je considère que les autres souffrances, c'est déjà du luxe. Et je ne veux plus me laisser influencer par le luxe. Je n'aurai plus jamais mal que d'un ulcère quelque part ou d'un cancer quelque part. Je n'aurai plus mal à autre chose.
La mort, déjà, elle a été présente le premier jour où on lui a dit qu'il avait probablement ou la tuberculose, ou la pneumonie, ou le cancer. On lui a dit ça assez brutalement. J'étais à côté de lui. Il m'a demandé d'aller chercher le livre, le manuel de médecine. Et en étudiant bien la chose, il s'est rendu compte qu'il m'a dit, ça c'est le cancer, c'est avec tout ce que je ressens, c'est le cancer. Et donc à partir de ce jour-là, on a eu la mort. Après, il a eu donc les opérations, c'était douloureux, mais il y avait moins la mort puisqu'il y avait l'opération. Puis après, tout doucement, on s'est habitué à cette idée que la mort était pas loin, quoi. Jusqu'au dernier jour aux Marquises, où là, on la sentait très présente parce qu'il allait vraiment très, très mal. Et puis après, nous sommes arrivés à Paris pour qu'il se fasse soigner. On nous l'a éloigné relativement, mais pas trop. Mais il fallait d'abord subir un certain nombre de traitements avant de l'éloigner, pas définitivement, mais, puisque rien n'est définitif, mais de l'éloigner sérieusement. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'arriver à la fin de ce traitement de façon à prévoir 18 mois ou 2 ans de répit. Donc la mort, elle a été là depuis 1974. Les derniers temps, quand il dit dans sa chanson « Vieillir », c'est que vraiment, du jour au lendemain, il a vieilli de 10 ans pour lui, dans son propre corps. Il aurait aimé durer un petit peu davantage parce qu'il était bien, il était libre et heureux, il avait envie de durer davantage. Mais le fait qu'on lui dise maintenant c'est arrivé, il faut que tu partes, il n'avait pas peur de ça. Ce dont il avait peur, comme tout le monde je crois, c'est d'avoir mal. Alors quand il avait mal, c'était pas très drôle d'avoir mal. Mais le fait de passer de l'autre côté, ma foi, il s'était préparé à ça.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, mais qu'est-ce que
que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver.
On a des petits points de repère, comme ça, à gauche et à droite. De temps en temps arrive un mot. Et puis pourquoi voulez-vous qu'on s'abîme la notion qu'on a des choses en les fréquentant ? N'est-ce pas, en fréquentant ces notions ? Parce qu'on fréquente, on fait le tour de l'arbre très vite. Surtout quand on devient moins jeune. Et j'ai de moins en moins envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de l'arbre. Moi j'ai envie de savoir ce que un arbre tordu, comme moi, on nous dit... Essaye, tente de paraître à quelqu'un d'autre juste parce qu'il a envie de lui mettre une branche sur l'épaule. J'ai pas envie d'aller voir de l'autre côté si c'est pourri, si c'est ravagé, si ça tient avec des piquets. Je m'en fous, moi. Je trouve que l'effort de dignité, de tendresse des gens, c'est ça, vivre. Maintenant, l'intérieur... Il n'y a que les médecins et les curés qui s'intéressent vraiment, pour des raisons très différentes.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois.
Je veux qu'on y dévore, après quelques soutanes, une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline, voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel, en criant « Dieu est mort » une dernière fois.
Asseyez-vous, mes amis, je vous en prie. Je désire que mes derniers regards s'arrêtent sur des visages riants et des verres pleins. Si vous voulez me faire plaisir, donnez libre cours à votre gaieté accoutumée. À votre santé, mes amis. À ta santé, Benjamin.
Foutre de foutre, c'est du bon.
C'est du bon.
Je ne veux pas que ma mort soit pleurée. Au lieu de crêpes, vous porterez une rose à votre habit. Après l'avoir trempée dans un verre de champagne, vous l'effeuillerez sur ma tombe. Elle sera creusée dans ma prairie, au bord du ruisseau. On y plantera un berceau de vignes et de chèvrefeuilles. C'est toi qui prononceras mon oraison funèbre. Je serai bien aise d'entendre de mon vivant ce que pense à moi la postérité.
Celui que nous laissons sous ce feuillage laisse après lui d'unanime regret.
Aucun homme ne laisse après lui d'unanime regret.
Préférez-vous des amis qui le pleureront longtemps?
C'est pour plus exact.
Alors, il a vécu en philosophe, jouissant de la vie et en faisant jouir tous ceux qu'il aimait. Et il est mort de même, à la suite d'un grand festin, entouré de ses amis. Passant, jetez une fleur sur sa tombe.
Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai le haut de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur. Une dernière fois.
9 octobre 1978.
Il était 4h10 la nuit dernière quand Jacques Brel a succombé à une embolie pulmonaire à l'âge de 49 ans. Rongé par un cancer du poumon, Brel était entré vendredi à l'hôpital franco-musulman de Bobigny dans le service du professeur Israël. Entré sous un faux nom car il voulait mourir tranquille, loin de la foule.
8h20. Une interruption dans ce programme musical pour laisser la place à l'information, et ceci pour un flash spécial, Jacques Brel n'est plus. Le célèbre chanteur s'est éteint cette nuit dans un hôpital parisien des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 49 ans.
C'est un matin vers 8h, 8h25, comme ça, avant d'aller au boulot, que tout d'un coup on a annoncé la mort de Jacques. Mais en fait, j'ai su pleurer assez vite. Quand il y a une forte émotion, je considère qu'il vaut mieux pleurer. Je ne suis pas tellement gêné de pleurer. Je trouve que d'une certaine manière, on rit en public, on peut pleurer en public. Ça fait... Ce qui était vraiment moche, c'est que dans les mois qui ont précédé, trois fois on a annoncé sa mort dans les journaux. Hein. Des journaux qui paraissaient le vendredi. Trois fois. On m'a encore téléphoné de grands journaux ici en ville. Tiens, dit Pierre, le bruit court que... Mais là, je savais que c'était comme ça, voilà. La femme de Jacques m'a téléphoné le lendemain et alors je suis parti à l'hôpital à Paris.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir.
C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais. J'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans le trou.
J'aime la fête. Je trouve que tout est une fête. La main d'un homme, c'est une fête. Retrouver quelqu'un, c'est une fête. Même un enterrement, c'est une fête. On est tous là. C'est une fête. C'est pas triste, c'est une fête. J'aime que les hommes se groupent, se réunissent. Et autre chose qu'un ennemi commun. Et un rêve commun. Et je donne encore priorité au rêve. Peut-être que quand je serai vieux, je dirai le contraire. C'est très possible. Je me le souhaite parfois. Il se passe des tas de choses jolies.
Jacques Brel, sur France Inter.
Ce qui est important, c'est pas le spectacle, c'est le spectateur. Je ne parle pas du tout de spectacle dans le sens de métier de spectacle. Les Alpes, c'est formidable. Il y a tellement peu de gens qui voient les Alpes. C'est pas la faute aux Alpes. Il faut se déplacer, il faut bouger, il faut chercher. Et pour les hommes, je crois que c'est la même chose. Dès qu'on attend quelque chose de quelqu'un, ça va plus. Si on a juste envie de le voir, d'essayer de saisir une forme de tendresse qui émane de lui, et qu'on se donne un peu de mal, soit, ils sont tous merveilleux, quoi. On n'a pas le temps, c'est vrai.
On est deux, mon amour. Et l'amour chante et rit, mais à la mort du jour, dans les draps de l'ennui, on se retrouve seul. On est 10 à défendre les vivants par des morts, mais cloués par leur cendre au poteau du remords. On se retrouve seul. On est 100 qui dansons au bal des bons copains, mais au dernier lampion, mais au premier chagrin. on se retrouve seul. On est mille contre mille à se croire les plus forts, mais alors imbécile, où ça fait 2000 morts. On se retrouve seul. On est millions à rire du million qui est en face, mais 2 millions de rires n'empêchent que dans la glace. On se retrouve seul. On est mille à s'asseoir au sommet de la fortune, mais dans la peur de voir tout fondre sous la lune. On se retrouve seul. On est sans que la gloire invite sans raison, mais quand meurt le hasard, quand finit la chanson, on se retrouve seul. On est 10 à coucher dans le lit de la puissance, mais devant ces armées qui s'enterrent en silence, on se retrouve seul. On est 2 à vieillir contre le temps qui cogne, mais lorsqu'on voit venir en riant la charogne, on se retrouve seul.
On manque de tendresse, oui. Et on manque de l'enfance, enfin, on manque de d'éblouissement. Dans le temps, on montrait les morts. Même encore quand j'étais petit, on voyait les morts. Dans les familles, il y avait des gens malades. On les voyait, mais on ne les voit plus. On nous voyait les morts. On ne voit plus les morts. Et maintenant, je crois que les gens se croient bien portants. Et de se croire bien portant à se croire éternel, il n'y a qu'un pas. Et me semble-t-il, par moments, un certain nombre de leurs problèmes sont des problèmes d'immortels, alors qu'on est mortel. Et c'est dans ça que je veux dire qu'il faut aller voir. Il faut savoir tous les jours qu'on est mortel. Et l'idée de la mort n'est pas une idée triste, c'est une idée d'une célébrité fantastique. Il y a plein de problèmes qui sont des problèmes d'immortels, et qui ne m'émeuvent donc pas, n'est-ce pas ? Ça s'est beaucoup mieux passé que mes rêves les plus optimistes. Les choses se sont passées un peu à mon insu. Je n'espérais jamais avoir une... Je trouve que j'ai une vie formidable. Et je n'espérais pas du tout, du moins quand j'ai eu l'âge de raison, mettons vers 12 ans. Je n'ai jamais espéré avoir une vie comme celle que j'ai eue. Jamais, je l'espérais. Je considère ça comme un cadeau absolument fantastique. Et encore maintenant, je suis ébloui tous les matins.
Ah, je les vois déjà, me couvrant de baisers, et s'arrachant mes mains, et demandant tout bas. Est-ce que la mort s'en va ? Est-ce qu'il est encore chaud ? Est-ce qu'il est déjà froid ? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, en rubanées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste. Ils se poussent du bras pour être le premier. J'ont amené les vieilles qu'ils ne me connaissaient plus. J'ont amené les enfants qu'ils ne me connaissaient pas. Auprès des fleurs et trouvent indécent qu'on meurt pas au printemps quand on aime le lilas. Je les vois déjà, tous mes vrais faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, écrasant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, en sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer, qu'on s'accroche à ton bras, le bras de ton dernier, le bras de ton quelconque, qui saura te faire pleurer bien autrement que moi. Déjà, m'installant à jamais, bien triste, bien au froid dans mon champ de soleil. Je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là dont on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et l'on a le fier culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté, d'aimer le filet de maquereau et de crier vive le roi. La 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 la. Oh non.
Brel, aimé jusqu'à la déchirure. Une série proposée par la Communauté des radios publiques de langue française et présentée par Morane. Archives sonores et production, INA, France Inter, Radio Suisse Romande, Société Radio-Canada et RTBF. Producteurs délégués Hélène Azera et Jean-Charles Simon. Mixage, Roland Fortan, Jean Cobergs, Pierre-Joseph Ranquin. Réalisation Ninette Godefroy, une production de Philippe Luters.